Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Bonjour Olivier Courville.
Bonjour Nadia Lichtig.
On se retrouve aujourd'hui au Café des Beaux-Arts.
Oui.
Donc, tu as fait des études ici à côté, aux Beaux-Arts de Paris ?
J'ai fait des études aux Beaux-Arts à Paris, oui. Donc c'était. C'était après d'ailleurs deux années d'architecture où j'ai appris énormément de choses, mais j'ai compris que je n'étais pas fait pour la profession d'architecte. Ça a été une évidence au bout de deux ans, et donc j'ai bifurqué vers les Beaux-Arts, section peinture. Car quand même, je peignais déjà depuis un certain temps, et je me suis senti beaucoup plus à ma place aux Beaux-Arts. Et peut-être plus à ma place aux Beaux-Arts, plutôt choisir le champ de la peinture. Mais les Beaux-Arts, l'école elle-même, je n'y trouvais pas beaucoup de satisfaction. Et j'avais un atelier qui était loin de Paris d'ailleurs, et qui fait que j'allais très peu à l'école. Mais en tout cas, j'étais inscrit au bon endroit.
Tu étais dans quel atelier?
Ben justement, j'étais inscrit dans je changeais d'atelier. À l'époque, bon, les Beaux-Arts, il faut savoir que les Beaux-Arts, c'était une structuration très différente de ce qu'il y a aujourd'hui. Et tu t'inscrivais dans l'atelier, mais il y avait tellement de monde que tu ne pouvais pas trouver de place pour travailler. Donc je ne travaillais pas à l'école. J'ai vu que je n'y arriverais pas, que c'était trop compliqué. C'était pas du tout je ne trouvais pas ma place physiquement. Il n'y avait pas vraiment de possibilité de ce côté-là. Donc non, je n'ai pas mis les pieds à l'école pendant longtemps. Mais brusquement, j'avais donc un atelier à 50 km de Paris. J'ai décidé de passer mon diplôme. Alors, décidant de passer mon diplôme, il fallait quand même que j'ai un prof qui me représente, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Parce que il n'y avait aucun crédit, ça s'appelait peut-être unité de valeur, peu importe, mais j'avais rien passé. Il fallait donc tout passer d'un coup pour passer le diplôme. Ce que j'ai fait, alors, il y avait des tas de choses que... Il y avait l'anatomie, il y avait la perspective, plein de choses, je l'ai fait, voilà, ça ne m'a pas déplu, hein. Mais une fois que j'ai eu ce diplôme, d'ailleurs plutôt dans de bonnes conditions, il y a un prof qui a accepté de me présenter, et puis ça s'est passé très bien, hein, j'ai eu aucun problème, mais après ça, au fond, le diplôme avait été une formalité, et étrangement, j'en avais pas tiré... beaucoup de choses, peut-être sur le plan technique, deux, trois choses qui m'avaient apporté, mais pas tellement sur le plan artistique.
Il n'y avait pas une communauté d'artistes étudiants
Il y avait une communauté d'artistes, mais comme j'allais très peu à l'école, mon atelier était très loin, au fond, j'étais assez isolé. Et donc, à la fois, il y avait un bénéfice à être isolé, c'est que tout ce que je décidais, j'étais dans une décision... très personnel, je voyais des expositions, je lisais beaucoup, etc. Mais j'étais pas dans une communauté d'artistes qui pouvait ni m'influencer, ni m'apporter beaucoup, parce qu'il n'y avait pas cette communauté.
Et comment tu te construis, avec quel type d'influence à l'époque? Tu regardais
à l'époque, oui, je regardais les expositions. Ben, je dis volontiers, puisque c'était à côté des Beaux-Arts, après tout, ça fait sens. Je devais avoir 25 ans. La première exposition qui m'a vraiment marqué, ça avait été l'exposition de Francis Bacon à la galerie Claude Bernard. Une exposition magnifique, j'étais très impressionné par... Je découvrais vraiment, c'était des superbes peintures. Et ça a influencé mon travail, clairement. Et deux, trois ans après, juste avant le diplôme, j'avais candidaté pour exposer à la Maison des Beaux-Arts, qui était le lieu d'expo des étudiants. Et j'avais obtenu la possibilité d'exposer. Donc j'étais assez heureux et fier de ma première exposition, où j'ai présenté toute une série de peintures que j'avais faites à l'époque, manifestement influencées par Francis Bacon, ne serait-ce que par le regard des autres me le prouvait, mais moi-même je voyais bien. Même si aujourd'hui, quand je regarde ça, je garde beaucoup une sorte de de satisfaction d'avoir fait ces peintures que je trouve pas du tout, je dirais tout à fait digne d'être montrées. Mais ce que je sentais, c'est qu'il fallait que je continue à travailler. Et là, la communauté d'artistes, elle est venue plus tard. Elle est venue plus tard parce que je sentais que justement, on ne peut pas être seul. On est seul dans son atelier peut-être, mais quand on quitte l'atelier, il faut bien aller. C'est très important de pouvoir rencontrer d'autres artistes. Donc c'est venu plusieurs années après, ça s'est fait peu à peu. Et à un moment donné, j'ai fait un voyage aux États-Unis qui m'a énormément apporté. J'ai rencontré des artistes. J'ai commencé à m'intéresser à l'édition. Je venais d'être prof aux Beaux-Arts, donc ça. Et donc assez jeune, hein, j'étais prof à 30 ans, 32. Oui. Et donc, j'ai très vite senti que l'école des Beaux-Arts, enseignant de l'école d'art, c'était aussi penser ce qu'on faisait avec les moyens qu'offrait une école. C'est-à-dire notamment, l'école éditait beaucoup à l'époque, et peu à peu je me suis dit, mais au fond, ça serait très intéressant de travailler sur un objet éditorial. Et alors il y a eu des rencontres importantes qui m'ont permis aussi de consolider comme ça ce choix. Et donc les rencontres... ça a été à la fois par l'école, c'est clair, il y a eu ça. Également mes premières expositions, bien sûr, qui commençaient à être un peu plus conséquentes.
Alors, on parle donc d'une époque où tu as 32 ans et tu commences à être prof.
Ouais.
Et à quoi ressemble ta peinture à ce moment-là ?
Alors à ce moment-là, ma peinture, elle est un petit peu en crise parce que mon époque Francis Bacon est révolue. Je vois bien que c'est non pas une impasse, mais qu'il faut que j'aille ailleurs, autrement, etc. Et elle ressemble à quelque chose qui est presque comme la nécessité de se former, presque de tout reprendre, tout refaire. Et par exemple, je me fais ma première petite résidence personnelle dans le Gard, dans une maison où je reste pendant... Comme c'était pas loin de mon école d'art, je travaillais sans cesse, je peignais, très influencé au fond par le paysage. Donc le paysage a été une manière de chercher des ressources qui n'étaient donc pas dans la peinture, mais qui étaient dans... Ouais, ce rapport classique à la nature, hein, qui est quand même un des modèles qui nous apporte beaucoup. Et donc je suis reparti de ça. Et donc ma peinture était une peinture plutôt abstraite. J'ai montré ces peintures, quand je suis revenu 6 mois après, j'ai montré ces peintures à une galeriste qui était à Paris et qui a tout de suite aimé ces peintures et qui m'a proposé une exposition. Donc c'était Nan Stern, la galerie Nan Stern, elle avait une petite galerie avenue de Tourville et elle a aimé mon travail et elle a tout de suite proposé qu'on travaille ensemble. Donc ça c'était vraiment très important évidemment. Mais curieusement, là encore, avec cette peinture qu'on pourrait dire qui était à la fois une peinture abstraite qui avait affaire avec le paysage, là encore, je sentais que j'étais pas. Il fallait que je continue à chercher. Ce n'était pas exactement ce que je cherchais. Je cherchais autre chose. Mais Nan Stern est une femme extrêmement intelligente, très fine, qui voyait tout. Et je me souviens très bien qu'elle me disait, pour me différencier des autres peintres, il y avait dans sa galerie, qui étaient souvent des peintres qui étaient dans ce qu'on appelait à l'époque, ou peut-être encore maintenant, l'abstraction paysagère. Elle me disait, mais toi, t'es un urbain, t'es pas un... Et elle avait raison, moi, j'étais beaucoup plus intéressé par des choses qui étaient beaucoup plus urbaines. Et c'est un fait qu'après, je me suis intéressé à des choses qui n'avaient rien à voir. J'ai fait un passage par la photo, par le cinéma. J'ai fait tout un travail en photographie, qui a été d'ailleurs... très déterminant. Je photographiais les usines Citroën, rue Ballard. Et d'ailleurs, j'ai appelé le portfolio qui a été édité. je l'ai appelé Notes en blanc et noir du Ballard, parce que c'était des photos en noir et blanc. C'était toute une série très précise, quoi, sur des bâtiments, sur un lieu et sur des traces. Voilà. Je m'intéressais à ça. La dimension peut-être un peu nostalgique et romantique d'ailleurs d'architecture industrielle me touchait beaucoup. Donc là, pour le coup, j'étais vraiment devenu intéressé par l'urbain, et le paysage était devenu urbain. Et alors, tout ça, c'est des transitions qui se font, et à partir de là, alors comment est venue la suite? C'est difficile, parce que je crois que c'est le travail dans l'atelier qui m'a ramené à la peinture. Parce que j'ai fait un film où j'utilisais des maquettes, c'était assez complexe, de la couleur, etc., que je filmais. Ce film a été un moment aussi, vraiment tout ça c'est des transitions. Et j'ai failli d'ailleurs le développer davantage, de lui donner plus d'ampleur, parce que je l'ai candidaté pour ça, mais finalement, c'est en faisant ce film, avec beaucoup de couleurs donc, c'était un travail en Super 8 avec des moyens très, très simples, j'ai compris que c'est la couleur qui m'intéressait, que c'était les matériaux, que c'était les espaces. J'introduisais des figures humaines dans cette construction par montage, et au fond je m'intéressais à quelque chose qui restait effectivement plus ou moins urbain, plus ou moins industriel, plus ou moins architectural. Mais toutes ces couleurs et toutes ces matières m'ont ramené à la peinture. Et donc brusquement, j'ai changé de manière de travailler. Et donc voilà, c'est vrai que les choses se sont faites peut-être d'une manière assez isolée. Il n'y avait pas ce groupe d'artistes qui parfois nous porte. Mais voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé là.
Quand tu dis ça, tout ce qu'on changeait encore à l'époque, quand tu faisais avant le film,
oui.
Il n'y avait pas eu ces couleurs flashy qu'il y a maintenant?
Non, elles sont arrivées plus tard. Les couleurs très, on va dire contrastées, parce que c'est pas exactement des couleurs pures, hein, mais j'aime que les couleurs soient effectivement très affirmées. Non, il y a eu c'est pareil, il y a aussi. J'ai découvert qu'au fond j'aimais énormément Fernand Léger. Et Fernand Léger, bah justement, un peintre urbain.
J'allais te le poser comme question.
Dans le fond, j'ai toujours pensé que c'est les peintres les artistes qui aident les artistes à se construire. Hein. Fernand Léger, ça a été une vraie révélation, parce que j'ai vu une exposition, j'ai vu des livres, bon, c'est comme ça. Finalement, les peintres, quand j'avais une vingtaine d'années, les peintres de l'époque, c'était quand même encore et fortement Picasso, Braque, Miro, Paul Klee. Tous ces peintres-là m'influençaient et m'intéressaient énormément. Et curieusement, Matisse et Léger n'étaient pas dans le... Je ne les ai pas vus. Par manque de, sans doute, de... Voilà, je suis passé à côté d'une certaine façon. Ils sont revenus un peu plus tard. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est comme ça, ça s'est fait. Et Léger a été un révélateur fort par rapport à ce que je cherchais.
Est-ce que c'est le rapport aux politiques aussi chez lui? Enfin, c'est quand même l'urbain, la classe ouvrière,
Alors je pense pas en ce qui concerne l'influence de Léger, je pense que c'était vraiment d'ordre physique. J'étais frappé de voir qu'une peinture de Fernand Léger me touchait immédiatement avec une force évidente, quoi. Il y a quelque chose là-dedans qui me...
C'est à ce moment-là que la figure est arrivée, parce qu'il y a des figures de ta peinture.
Les figures sont arrivées effectivement un peu après. Bon, après c'est difficile de faire des chronologies. Déjà sans se tromper trop, qu'est-ce qui arrivait avant, après. Mais non, le fait est que les figures sont arrivées plus tard. Le retour, parce que mon époque que j'appelle Bacon, il y avait des figures, évidemment. C'était figuratif complètement, c'était des personnages dans des lieux. Mais ça, je l'avais laissé tomber. Donc c'est... Mais j'ai jamais été un peintre qu'on pourrait dire purement abstrait. J'ai toujours voulu qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la figure dans mes. Bon, il y avait des objets, et sans même parler de figure, il y avait. Mais mes premières peintures que je pourrais qualifier d'abstraites, soit il y avait du paysage, soit il y avait des objets. Et ces objets étaient très présents. Donc, je ne crois pas d'ailleurs qu'il y a une peinture purement abstraite. Il y a toujours une relation au monde qui nous entoure, aux objets, aux personnages, aux... Voilà.
Oui, dans le travail, il y a tout un rapport à la relation vers le dehors. Donc, c'est quelque chose que tu travailles aussi par les textes. Donc,
oui.
L'idée de comment la peinture existe-t-elle relation avec le monde. Un texte récent que tu nous as envoyé à traiter ça. Il y avait aussi cette... Est-ce que ça vient de cette solitude que tu, à un moment donné, que tu invites des personnes à donner des titres, par exemple,
oui,
à tes œuvres, enfin, d'inviter des gens à l'atelier pour avoir une interaction? D'où vient cette envie de, d'adresse de...
Ben, en fait, ça, c'est quelque chose qui est venu un peu... qui est venu par une succession de constats que je faisais avec moi-même et mon travail. C'est que, en fait, quand je faisais des tableaux... Je n'étais pas satisfait qu'un tableau, une fois terminé, puisse être nommé sans titre. Ce qui en soi ne me gêne pas. Par exemple, j'ai toujours admiré beaucoup la peinture de Bram Van Velde, et pour lui, c'est presque un modèle. La peinture est sans titre. Mais moi, ça ne me satisfaisait pas. Et je pense que c'est parce que j'y mets dedans quelque chose qui a très précisément justement à quelque chose de l'ordre de la figure. Donc il faut la nommer, un peu comme une personne a un nom. Et ben là, il faut qu'un tableau ait un nom. Dans les expositions, j'avais de temps en temps la réflexion qui vient souvent, pour un peintre abstrait notamment, sur qu'est-ce que ça représente, ce que vous faites là, qu'est-ce que vous avez représenté là, c'est quoi. J'ai compris à un moment donné que j'avais pas forcément besoin d'essayer de m'expliquer sur ce que je représentais, mais que j'avais plutôt à leur donner la parole et leur dire mais qu'est-ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez dans ce que j'ai fait, quoi. Et donc ça suppose d'avoir une certitude sur ce qu'on a fait pour pouvoir le livrer à l'appropriation des autres. On dit, bon, allez-y, vous voyez ce que vous voulez. Donc là, j'étais assez sûr de moi pour penser que les gens pouvaient s'approprier l'œuvre, justement, en leur donnant un titre. Bon, moi-même, je donne un titre. Une fois que le tableau est fini, je donne un titre. Mais l'idée de donner un titre, elle est venue dans une exposition que j'ai faite en 2003 au quartier à Quimper, avec Dominique Amansour, qui dirigeait le quartier, et qui s'en connaissent, qui a compris un peu mon intérêt pour cette question du titre. Et j'en avais un peu parlé avec elle. Elle m'a dit, bah, c'est peut-être l'occasion de proposer aux visiteurs de titrer un tableau. Et donc, j'ai choisi un des plus grands, parce qu'il fallait peut-être faciliter pour rentrer dedans, justement. Donc j'ai eu un très grand format, un très grand tableau, qui d'ailleurs est à l'exposition, là. Ça m'a fait plaisir de le ressortir. Et donc, l'idée avait été de mettre un petit carnet et de donner au titre une place très importante, puisque un des plus grands murs de l'exposition, il y avait uniquement les titres écrits en très très grand, peints, ils étaient par transposition, quoi. Donc, bref, ils étaient sur le mur. Je ne sais plus du reste. En tout cas, ils étaient sur le mur, tous à dans grandes dimensions, et il y avait ce fameux tableau qui était nommé, entre parenthèses, il y avait écrit sans titre. Et donc, c'était provisoire. Et en invitant les gens à le titrer, à la fin de l'exposition, je me suis retrouvé avec un carnet qui était vraiment avec une quantité de titres incroyable, à part quelques propositions très potaches. Il y avait des choses extrêmement subtiles, fines, drôles, venant de tous ordres. Hein.
Et ce cahier, est-ce que c'est devenu un cahier de charges où tu as tiré après des idées pour du nouveau tableau?
Alors, non, j'ai eu la décision à prendre que comme ce grand tableau qui avait été titré par les visiteurs allait être à nouveau exposé deux fois, parce que l'exposition était en trois volets, je me suis dit, pour la deuxième ou troisième exposition, il faut que je choisisse l'un des titres qui est là. Mais en soi, les titres des visiteurs ne m'a pas influencé sur la production même de la peinture. Non, non, ça m'a confirmé quelque chose qui est peut-être évident dans mon travail, après tout. C'est que quand on regarde ce que je fais, ce n'est évidemment ni un portrait, ni un paysage, ni quelque chose qui peut être nommé de façon univoque, en disant, bon, c'est un portrait, donc c'est monsieur ou madame machin, non. Là, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier parce qu'on peut se projeter dedans et je suis évidemment intéressé par une certaine ambiguïté de ce qui est représenté, peut-être pour ouvrir à des sens. Ouvrir à des sens possibles. Donc en ouvrant des sens possibles, bah, j'ouvre évidemment à la lecture qu'on en fait. Et donc, je crois qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que ça se donne à lire et à interpréter, ce qui m'intéresse énormément. Et parfois, bon, je cherche volontairement des ambiguïtés entre la forme, le fond, la figure peut devenir centrale ou pas centrale, elle peut devenir effectivement un peu anthropomorphique, où elle peut évoquer un objet ou quelque chose de la nature. Tout ça me convient, mais je ne le nomme pas de manière trop fermée. C'est pour ça que les titres sont importants voilà, donner.
Il y a aussi une technicité, un savoir-faire assez complexe. Enfin, j'imagine que ça vient avec le temps. Il y a un recouvrement, il y a tout un travail autour du scotch, autour du masquage.
C'est venu. Alors là, pour le coup, c'est à la fois des choses techniques et des choses très sensorielles. C'est que je faisais des grandes toiles avec la peinture acrylique. Qui était à la fois satisfaisante, mais là encore, j'avais besoin d'aller un peu au-delà ou ailleurs. Et j'ai découvert que la peinture à l'huile pouvait m'apporter une onctuosité et une surface qui avait des qualités très spécifiques dont j'avais envie. Et je l'ai fait cohabiter avec la peinture acrylique, d'avoir les deux peintures ensemble, les deux surfaces ensemble. Et ça me permettait à la fois de résoudre des problèmes de plan, de couleur et de qualité, de physique, on va dire. Et parce que cette espèce d'onctuosité de la surface dans la peinture à l'huile, elle a quelque chose que n'a pas l'acrylique en l'occurrence. Alors là, on est vraiment sur des choses techniques, mais qui ont un vrai sens très profond. C'est que la peinture à l'huile, quand elle est déposée sur la surface de la toile, elle est absolument comme elle sera, elle est intacte. Peut-être qu'elle vieillira, etc., mais elle est absolument intacte dans sa structure. Elle ne s'effondre pas, elle a une... Comme je la mets en épaisseur à l'acrylique, si je mets une épaisseur à l'acrylique, elle s'effondre légèrement, pas la peinture à l'huile. Elle reste absolument intacte par rapport à ces marques très sensibles qui émergent, des lignes, des choses comme ça. Tout ça est intact. Donc ça, j'aime beaucoup. Et l'épaisseur aussi. Et donc le contraste entre des surfaces très épaisses et des surfaces très planes, c'est quelque chose de très satisfaisant. Et donc il fallait travailler par masquage, parce que je ne pouvais pas à la fois avoir une peinture avec des surfaces en acrylique et des surfaces à l'huile sans protéger. En l'occurrence, je protège l'acrylique et donc je peux avoir trois ou quatre couleurs à l'huile, et pour les disposer, il faut que je protège tout ce qui est autour. Donc cette protection, c'est protéger le dessin, souvent. Le dessin, généralement, pas toujours, mais très souvent, il est à l'acrylique. Parfois j'inverse, etc. Mais il y a donc un travail de décision, de découpage, de construction de l'espace à travers ces matériaux également. C'est pas uniquement par les couleurs, mais c'est aussi par les matériaux employés. Donc ça c'est vrai que c'est une particularité de ce que je fais. Ouais.
Quand est-ce que c'est arrivé, ça ?
C'est arrivé en... Si je devais le dater, c'est arrivé en... 96, 97, 97 par là. C'est mes premières peintures à l'huile.
Aujourd'hui, tu te sens proche de quel peintre ?
Curieusement, si je devais vraiment répondre avec justesse à une question comme celle-là, j'ai beaucoup d'intérêt pour beaucoup d'artistes, mais j'ai toujours l'impression qu'on ne peut pas se rapporter à l'un ou à l'autre plus particulièrement. Qui ferait quelque chose dont on se sent très proche. Probablement à la croisée de plein de choses différentes. Donc c'est vrai que j'aime souvent des choses qui sont assez contradictoires. Mais après, c'est, et là où c'est beaucoup plus facile, c'est de sentir quels artistes d'une génération parfois un petit peu avant qui nous touchent plus que d'autres. Mes contemporains, moi je les regarde un peu comme une espèce de machine en mouvement à laquelle je participe et sur laquelle je n'ai pas un recul énorme finalement. On rentre dans le travail, on discute de ce qui se joue à l'intérieur, de ce qui se fait, etc. Mais ce n'est pas en termes ni d'influence, ni de proximité finalement. C'est l'intérêt qu'on prend pour une œuvre qui n'est pas la nôtre et qui peut être vraiment différente. Donc ce n'est pas une question facile de répondre à ça. Mais en général, je suis les œuvres dont je suis le plus proche, ce n'est pas forcément des artistes que je peux côtoyer parce que soit ils sont dans d'autres pays, soit ils sont d'une génération avant.
Et par exemple, Philippe Guston, est-ce que c'est quelqu'un que tu regardes?
Oui, énormément, j'adore Philippe Guston. Mais par exemple, voilà, c'est vrai que je dis volontiers que Philippe Guston et Mondrian sont des artistes que j'aime beaucoup et qui sont presque en contradiction l'un avec l'autre. Mais aimer les deux, c'est justement sentir qu'on a quelque chose à faire avec des choses qui sont effectivement presque contradictoires. C'est pour ça que je parlais du fait qu'on n'est pas forcément proche des choses qui sont les nôtres. Mais oui, c'est ça. Oui, Guston, j'adore Guston. En fait, ce que j'ai découvert avec Guston, c'est que la première fois que j'ai vu un tableau de Guston à Beaubourg, j'ai regardé ça avec un sentiment d'effarement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Beaubourg a été, le musée donc pourquoi ils ont acheté cette œuvre? Qu'est-ce qu'il leur a pris? Parce que je trouvais ça improbable, étrange. Alors, c'était il y a, je ne sais pas, je devais avoir une trentaine d'années, et je vois un tableau de Guston, c'est insensé. Et je n'ai donc pas compris. Ça m'a surpris. Et après, j'ai découvert Guston et j'ai beaucoup aimé. Et ça a été en quelque sorte une vraie découverte. À la fois parce que Guston est un peintre extrêmement attachant, parce qu'il produit une peinture, il a une longue période abstraite, mais ce n'est pas celle-là qui m'avait frappé. C'est la deuxième période où, comme disait une amie critique d'art, quand il change et qu'il abandonne la peinture abstraite, il est abstrait le jour et figuratif la nuit. Ce qui est assez drôle comme image, mais c'était vrai en plus. C'est-à-dire qu'il ne montrait pas sa peinture figurative, etc. Et cette peinture figurative, au fond, elle est empruntée aux comics américains, elle est empruntée à quelque chose qui paraît presque grossier et grotesque, hein, totalement grotesque. Et ce grotesque m'a beaucoup touché. C'est-à-dire, il y a une revendication de quelque chose d'incorrect presque. Et je me dis, il a raison, il est d'une liberté incroyable. Et cette liberté, il l'a payée effectivement peut-être d'amitié du moment, mais il a été un grand bénéficiaire de cette liberté. C'est magnifique son œuvre. Donc c'est vrai que son œuvre, c'est une vraie nébuleuse, elle touche énormément d'artistes hein, qui sont très différents les uns des autres.
Il y a un autre artiste qui me vient à l'esprit, c'est d'un autre ordre, mais vu des formes et des couleurs, c'est Franz West.
Franz West, oui, oui. Oui, oui.
Je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, on peut très bien s'imaginer un tableau de soi à côté d'un Franz West. Tu vois.
Oui, j'aime beaucoup Franz West. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une œuvre qui a aussi un caractère comme ça. Il y a une forme de rugosité qui est assez touchante, hein, attachante. Hein, ouais. Oui, non, c'est vrai. En fait, si on devait dresser une espèce de cartographie des artistes qui nous touchent, déjà, il y a dans l'histoire, il y a des artistes qui sont très anciens et qui nous touchent profondément. Par exemple, Piero La Francesca est un peintre qui m'avait énormément marqué. Et son découpage, ses couleurs, au fond, je m'y retrouve. Et Guston aimait beaucoup. C'était un de ses grandes références en art. Et on comprend avec sa peinture muraliste, ça fait sens, mais pas uniquement, et ça va au-delà. Et donc, dire bah oui, dans le fond, on partage les mêmes passions avec des artistes très différents. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc oui, voilà.
Merci, Olivier.
fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.